Bonsoir Fabienne Synthèse.
Bonsoir Charline et les garçons. Revenez demain, même heure, même endroit. Nous c'est parti, ravi de vous retrouver. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Bienvenue sur la planète et sa banlieue. Et c'est avec le journal qu'on ouvre ces deux heures d'infos. Comme à chaque fois, bonsoir Amélie Perrier.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce lundi commence avec un film presque en salle.
La parole d'un cinéaste face à la présomption d'innocence d'un prêtre accusé de pédophilie. Un premier jugement donne raison à François Ozon pour sortir son film Grâce à Dieu mercredi. Un second référé est attendu demain. La France va-t-elle livrer les anciens militants des brigades rouges italiennes à Rome? La ministre Nathalie Loiseau ne voit aucune raison de s'y opposer. Rome qui soutient le mouvement des Gilets jaunes contre Emmanuel Macron. Un mouvement rongé par l'antisémitisme, un rassemblement a lieu demain à Paris contre les violences faites aux Juifs. L'antisémitisme à l'origine de la démission aussi de députés travaillistes au Royaume-Uni. Il critique les ambiguïtés du chef du parti. Le glyphosate responsable de lymphome chez les travailleurs qui utilisent l'herbicide. Une nouvelle étude vient de paraître. Et puis, le cas de conscience des instances du sport face à une athlète qui fabrique naturellement trop de testostérone. Concurrence déloyale avec les autres sportifs, disent certains. L'égalité physiologique n'existe pas sur la ligne de départ, répond-elle.
À 18h15, un jour dans le monde. Ce soir, nous sommes devant un sondage dans 27 pays de l'Union, sans la Grande-Bretagne. Donc, à 100 jours des élections, à quoi va ressembler ce Parlement? Les populistes, vous le verrez, ne renversent pas la table, mais ils sont bien là. On en parle avec le premier invité. Ce soir, nous sommes en Russie, qui essaye de sauver les centaines de prostituées emmenées sur des mensonges il y a 9 mois pour la Coupe du Monde. Et puis 19h20, le téléphone sonne. Nous regardons de très près cette semaine qui s'ouvre au Vatican, ce séminaire sur la pédophilie. C'est la semaine qui doit tout changer. Théoriquement, la fin du culte du secret. On en parle ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter.
Et donc, pas de censure pour le film de François Ozon.
Grâce à Dieu est sur le point de sortir au cinéma. C'est son titre, Grâce à Dieu, et surtout grâce à la décision de la justice à Paris aujourd'hui. Le père Prénat, au cœur du récit de François Ozon sur les agressions sexuelles dans le diocèse de Lyon, n'a pas obtenu la suspension de la diffusion du film. Bonsoir Jean-Philippe Deniau.
Bonsoir Mélie.
Alors, les magistrats ont dû trancher entre la liberté d'expression d'un cinéaste et la présomption d'innocence pour Bernard Prénat, pas encore jugé. Comment ont-ils motivé leur décision aujourd'hui?
Alors, le tribunal estime d'abord que les auteurs du film ont pris suffisamment de précautions pour garantir la présomption d'innocence de Bernard Prénat. Il y a des cartons dans les génériques en début et en fin de film qui informent les spectateurs qu'il s'agit d'une fiction inspirée de la réalité et qui rappellent surtout que le prêtre n'a pas encore été jugé. Certes, Bernard Prénat est présenté tout au long du film comme l'auteur des faits qui sont évoqués par ses victimes, mais ces éléments ont déjà été largement exposés au public, dans la presse, dans les livres et même dans les comptes rendus d'audience du procès du cardinal Barbarin, poursuivi pour ne pas avoir dénoncé les agissements du prêtre et dont le procès s'est tenu à Lyon le mois dernier. Enfin, le tribunal estime que reporter la sortie de ce film jusqu'à ce que le père Prénat soit définitivement jugé, c'est-à-dire dans plusieurs années, serait une atteinte grave à la liberté d'expression et une mesure très disproportionnée, écrit le tribunal, engendrant des conséquences économiques insupportables. Mais les juges des référés concluent en indiquant que leur décision ne ferme pas complètement la porte à des demandes de dédommagement que le père Prénat pourrait réclamer devant une autre juridiction, s'il estime subir un préjudice.
Jean-Philippe Deniau, merci beaucoup. François Ozon n'en a pas encore terminé avec la justice. Une autre audience se tenait aujourd'hui à Lyon, cette fois, à propos du film. Une ancienne membre du diocèse, personnage du long métrage, réclame que son nom n'apparaisse pas à l'écran. Le cinéaste doit attendre demain après-midi pour avoir cette dernière décision avant la sortie du film. Et semaine délicate, décidément pour l'Église catholique, une deuxième plainte a été déposée contre l'ambassadeur du Vatican en France, Luigi Ventura, pour des attouchements sexuels. Le parquet de Paris a déjà ouvert le 24 janvier une enquête visant le nonce apostolique à la suite d'un premier signalement de la mairie de Paris. Le religieux est accusé de s'en être pris à un jeune cadre pendant la cérémonie des vœux à l'hôtel de ville. À partir de jeudi également et jusqu'à dimanche, le pape lui réunit au Vatican tous les présidents des conférences des évêques de la planète pour évoquer les agressions sexuelles et les moyens de lutter contre. Et puis jeudi, c'est aussi la date de sortie du livre Sodoma du journaliste français Frédéric Martel, une enquête au cœur du Vatican sur la culture de la double vie au sein des cardinaux et des prélats. L'homosexualité décriée dans les messages officiels y serait majoritaire selon Frédéric Martel au Saint-Siège.
Un autre retour, Amélie, pour les anciens brigadistes italiens.
Ces militants d'extrême gauche dans les années 70-80 condamnés dans leur pays et réfugiés en France. La ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, affirme aujourd'hui dans les colonnes du Monde qu'il n'y a aucune raison pour le gouvernement de s'opposer à leur extradition. Je n'ai pas de doctrine sur sur les questions de justice, dit-elle, manière d'enterrer définitivement la doctrine Mitterrand, François Mitterrand qui avait décidé de donner l'asile, de refuser les extraditions de ses anciens militants, manière aussi de tendre la main à Rome. Les relations des deux côtés des Alpes sont difficiles depuis quelques mois entre Emmanuel Macron et les populistes de la Ligue d'extrême droite et du mouvement 5 étoiles, comme nous le dit le spécialiste des relations franco-italiennes, Jean-Pierre Darnis.
Il n'y a rien de nouveau. En effet, c'est depuis la présidence Sarkozy et les gouvernements Berlusconi qu'on avait rétabli un accord classique d'extradition entre la France et l'Italie. Mais très certainement, le fait de réaffirmer ce principe en ce moment va dans le sens de peut-être calmer le jeu avec l'Italie. C'est, je pense, une manière sérieuse de réaffirmer que il y aura le droit, que le gouvernement ne s'y oppose pas, mais que c'est la justice aussi qui doit faire son cours.
Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, le gouvernement ou la justice italienne fasse des demandes d'extradition à la France ?
Alors apparemment, il y aurait eu il y a quelques jours une réunion en ce sens à Paris, entre des commissions, je pense, de juges des ministères de la justice qui ont examiné une série de cas. D'après ce que vos collègues de la presse en disaient, tout n'est pas évident. Il y a des gens qui sont malades, d'autres âgés, d'autres dont les peines sont anciennes. Donc, il pourrait y avoir quelques décisions, mais enfin, la marge de manœuvre n'est quand même pas énorme.
Jean-Pierre Darnis, maître de conférence à l'université de Nice, il était interrogé par Thibaut Cavaillès. Une brouille attisée par le soutien des dirigeants italiens aux Gilets jaunes, ce mouvement qui a montré son pire visage samedi. Les images du fourgon de CRS pris d'assaut par des Gilets jaunes à Lyon. L'enquête ouverte s'élargit aujourd'hui à un second véhicule des forces de l'ordre attaqué par des manifestants. Aucune interpellation pour l'instant. Image aussi de l'agression du philosophe Alain Finkielkraut en réponse à l'antisémitisme, des insultes contre le philosophe. 19 partis ont appelé à manifester demain à Paris. Le président de la République n'ira pas. Emmanuel Macron réserve son intervention sur le sujet au dîner annuel du CRIF, les institutions juives de France. Ce sera mercredi soir. Il devrait se prononcer notamment sur la volonté de certains députés de légiférer pour que l'antisionisme devienne un délit comme l'antisémitisme. Quant au Rassemblement national de Marine Le Pen, il ne défilera pas demain. Le mouvement prévoit une manifestation séparée. L'antisémitisme, fléau qui interroge aussi la classe politique au Royaume-Uni. 7 députés travaillistes viennent de démissionner. Ils contestent leur chef, Jeremy Corbyn, sa conception du Brexit, mais aussi donc l'antisémitisme latent qui gangrène le Labour. À Londres, c'est la correspondance d'Aude Soufi.
Depuis des mois, les accusations de racisme et d'antisémitisme minent le parti travailliste et son leader Jeremy Corbyn est très critiqué pour son manque de réaction sur le sujet. Un parlementaire avait d'ailleurs déjà démissionné fin août pour ce motif, mais depuis, peu d'évolution notable dans la formation de gauche. La députée Luciana Berger a donc elle aussi claqué la porte ce matin, dénonçant une culture du harcèlement.
Les valeurs que je chéris ont été régulièrement et constamment violées, attaquées et mises à mal. Je ne peux pas rester dans un parti après avoir tiré l'écœurante conclusion qu'il est devenu institutionnellement antisémite.
Autre problème, l'ambiguïté de Jeremy Corbyn sur le Brexit. Personne n'arrive vraiment à comprendre si le leader travailliste est pour ou contre, ni quel type de relation il souhaite avec l'Union européenne. C'est l'une des raisons essentielles pour lesquelles Mike Gapes, comme 6 autres de ses collègues, a décidé de reprendre son indépendance politique.
Je suis furieux que la direction travailliste soit complice de faciliter le Brexit, qui va causer un grand dommage économique, social et politique à notre pays.
Ces 7 députés vont maintenant former leur propre groupe au Parlement, ce qui ne devrait pas changer l'équilibre à la Chambre des communes, mais ils appellent d'autres de tous bords politiques à suivre leur exemple et à les rejoindre. À Londres, Aude Soufi, France Inter.
Il est 18h09 sur France Inter. Retour en France, on a vu les dérives du mouvement des Gilets jaunes. Pour ce qui est des revendications, Amélie, maintenant.
La disparition des services publics figure haut dans les listes des doléances. Exemple à Bernay, dans l'Eure, où la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, est allée aujourd'hui confirmer la fermeture de la maternité aux grandes dames de la population et des équipes soignantes. Le reportage de Sixtine Lys.
Le personnel et les associations ressortent de leur table ronde avec la ministre, avec un goût amer. Thomas Drouet, secrétaire départemental adjoint Force Ouvrière.
La ministre n'a pas forcément écouté nos arguments. Elle est venue avec la ferme intention de fermer cette maternité, alors que le président Macron lui avait demandé de rouvrir le dossier. En l'occurrence, elle n'a rien rouvert du tout. Elle reprend les propos infondés et erronés de l'ARS.
Aucun dialogue, aucune discussion. Sarah Ferraud, infirmière à la maternité de Bernay depuis 12 ans, pense à ses patientes.
Elles me disent « bats-toi, nous laisse pas tomber ». C'est difficile pour moi de dire à mes patients que je n'ai pas réussi pour l'instant. mais c'est pour l'instant qu'on n'a pas réussi.
L'association Liberté, Égalité, Proximité n'en a pas fini avec la ministre. C'est ce que clame son vice-président Jérémy Vanez.
Rendez-vous au tribunal, Madame Buzyn. L'association Liberté, Égalité, Proximité se constituera partie civile en cas de drame résultant de la fermeture de la maternité. Les responsables paieront.
Malgré les arguments avancés, la ministre le martèle, la fermeture de la maternité, c'est mieux pour l'hôpital.
Beaucoup de maternités aujourd'hui se sont déjà transformées en centres de périnatalité en France. Et à chaque fois que je vais les visiter, je vois un service médical rendu aux femmes.
La fin des accouchements doit se faire dans le courant du mois de mars.
Le reportage de Sixtine Lys. Du côté de l'enseignement supérieur, on se demande si l'on doit faire davantage payer les étudiants étrangers. Un rapport commandé par le ministère propose aujourd'hui de ne pas faire subir ces augmentations aux doctorants. Pour eux, à partir de la rentrée prochaine, le gouvernement a prévu de faire passer les frais d'inscription de 380 à 3 770 euros. Une hausse insupportable, dénonce la communauté universitaire. On y reviendra dans le journal de 19h. Une nouvelle pierre dans un jardin plein de glyphosate, le produit soupçonné de provoquer des cancers et dont on attend mal à décréter l'interdiction en Europe. Des chercheuses américaines viennent de montrer que les travailleurs au contact de l'herbicide présentent des risques accrus de lymphome, un cancer du système lymphatique. De quoi donner des arguments supplémentaires, Célia Kiret, aux militants en guerre contre le glyphosate.
Cette publication américaine est une compilation de plusieurs études réalisées depuis 18 ans. Les chercheuses ont d'abord observé les effets du glyphosate sur les hommes. Une cohorte de plus de 50 000 personnes travaillant dans l'agriculture a été étudiée et elles ont également comparé ces résultats avec des données sur les souris. Leur conclusion est sans nuance. Il y a un lien évident entre l'exposition au glyphosate et un risque accru de lymphome. Selon elles, l'exposition à cet herbicide augmenterait même de 41% le risque de souffrir de ce cancer. Cette publication vient donc donner de nouveaux arguments à toutes les personnes atteintes de lymphome ou à des membres de leur famille qui sont déjà en procédure judiciaire contre Monsanto, le principal fabricant d'herbicides à base de glyphosate. De son côté, Bayer répond que cette publication mélange des données incompatibles. L'industriel s'appuie toujours sur les conclusions des autorités réglementaires comme l'Agence européenne de sécurité des aliments qui prétendent que les produits à base de glyphosate sont sûrs lorsqu'ils sont utilisés avec précaution. Mais ces Américaines mettent désormais remet en doute ce constat.
La politique australienne, victime d'un piratage informatique, les systèmes du Parlement et de plusieurs partis ont été la cible d'une cyberattaque à quelques mois des élections. Selon le Premier ministre Scott Morrison, le piratage pourrait venir d'un agent étatique sophistiqué. La Chine et la Russie sont cités par la presse, mais les experts assurent qu'il faudra du temps pour remonter jusqu'aux responsables.
Et puis on termine avec une athlète qui interroge la science, mais surtout la notion d'égalité dans le sport.
Le cas de Caster Semenya. Elle est sud-africaine, championne du monde du 800 mètres en 2009. Elle avait dû se soumettre à des tests de féminité interdite de compétition pendant 11 mois avant d'être réintégrée. Car Caster Semenya produit naturellement un excès de testostérone. La Fédération internationale lui impose aujourd'hui de prendre un traitement médical. La sportive refuse. Écoutez l'éclairage de Mathieu Reb, le secrétaire général du tribunal arbitral du sport.
La question n'est pas une question de genre, savoir si c'est une femme ou un homme. La question, c'est justement de discuter de ces seuils de testostérone pour garantir, selon la fédération, l'égalité entre les athlètes féminines. Évidemment que l'athlète dit que elle-même étant née ainsi, naturellement ainsi, elle n'estime pas juste et pas idoine de prendre des médicaments ou des produits qui abaisseraient son taux de testostérone de manière artificielle. C'est une sorte de dopage inversé, hein. Vous l'avez compris. On ne va pas parler que de droit ou de science. Il y a quand même un volet éthique et philosophique là derrière, ce qui rend cette affaire si particulière et si difficile. C'est vrai que pour le tribunal arbitral du sport, c'est un dossier qui est extrêmement délicat.
Et oui, question délicate, l'éthique du sport. Mathieu Reb du tribunal arbitral du sport, il répondait à Cécilia Rabona.
Et merci beaucoup Amélie Perrier. Tout de suite dans Sous les radars, Amélie.
Oui, ce soir on va parler du Nigeria qui fait ses comptes après le report des élections. Cela pourrait coûter des milliards de dollars. La Belgique lance son grand chantier de rénovation des prisons. Et puis la Russie rouvre son plus célèbre colquet. C'est une affaire jamais résolue.
On verra ça donc ensemble. Il sera autour de 18h37. Bravo ce soir. Bravo pour un lundi. Ce soir, on se penche sur le premier sondage pays par pays en Europe qui donne une projection du Parlement tel qu'il sera après les élections. Pas de majorité des populistes, mais une montée quand même. On verra ça ensemble. Nous sommes aussi en Russie avec les femmes emmenées pour se prostituer pendant la Coupe du Monde. C'était il y a 9 mois. Et puis, en deuxième heure, le téléphone sonne. C'est la semaine décisive qui s'ouvre pour l'Église, pour le Vatican. Quand jeudi sommet sur la pédophilie, il semble qu'enfin enfin la loi du secret se lève. En tout cas, la prise de conscience semble bien là. C'est à voir, on en discute ensemble au 01 45 24 7000.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
C'est vrai que vous êtes belle et naturelle, Jean-Pierre Hameau. Moins de soleil prévu pour demain.
Oui, oui, d'ailleurs, les chaussettes ne seront pas utiles demain. Effectivement, hein, Fabienne, demain mardi sera très certainement la journée la plus nuageuse de la semaine. Nous allons d'abord retrouver les traces d'une perturbation peu active, hein, s'étirant du nord de l'Aquitaine à la région centre et jusque vers la Lorraine. Les pluies associées seront vraiment anecdotiques. Et puis de part et d'autre de cette perturbation, le ciel sera nuageux le matin avec en prime beaucoup de grisailles. En revanche, les éclaircies reviendront en force en cours d'après-midi. Le soleil, quant à lui, va continuer de briller généreusement au-dessus des Pyrénées et du Massif central, mais aussi de la région Rhône-Alpes à la Corse en passant par la région PACA.
Et trois températures pour la route.
Eh bien, demain matin, il n'y aura plus de gelée, hein, avec des minimales comprises entre moins 1 et 6 degrés. Les maximales seront en sensible baisse, mais dans tous les cas, les valeurs attendues resteront supérieures en moyenne de saison. Prévoyez 10 à 13 dans la moitié nord et 14 à 16 dans la moitié sud.
Jean-Pierre Hameau de Météo France, merci beaucoup. À tout à l'heure, Jean-Pierre, après 19h.